Bonjour, heureux de vous retrouver pour la deuxième de Qui suis-je ? À la veille des scrutins régionaux et départementaux du 20 et 27 juin, à la veille de l'année 2022 et ses élections présidentielles et législatives, cette deuxième émission porte sur un enjeu absolument majeur, sur l'abstention et l'absolue nécessité, l'obligation morale, éthique, historique d'aller voter au prochain scrutin. J'ai eu du mal à trouver le titre de cette deuxième émission. J'hésitais entre « s'abstenir va devenir un crime pour la démocratie »,« s'abstenir c'est tuer la démocratie ». J'ai retenu un titre plus positif, plus constructif, « Allez voter, c'est votre devoir ». Pour cette émission, je reçois avec grand plaisir Pierre Jakubowicz, homme politique strasbourgeois. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être là. Malgré un emploi du temps, je crois, assez délirant, j'ai mes informateurs qui me disent que très très souvent, tu commences très très tôt le matin, à 5h du matin, que tu termines souvent le lendemain, avec donc des journées de fou. Tu es reconnu à Strasbourg par tous les partis politiques pour tes qualités d'analyse, pour ton amour de l'écrit, pour ta culture et ta passion de la culture. Je rajouterai à titre personnel, puisque j'aime bien un petit peu me livrer dans cette émission qui s'appelle « Qui suis-je ?», j'aime bien aussi mettre en avant ton humanité. Tu coaches en effet mon fils maintenant depuis près d'une année et tu le formes. Tu passes aussi pas mal de temps avec lui à rigoler, d'après ce qu'on m'a dit. Et j'aime à dire, avec un peu de malice, que tu es un de ces pères spirituels. Les mots sont forts, mais ils sont vrais. Avant de commencer mon billet d'humeur, le rituel de l'émission est que mon invité prononce le titre de l'émission, qui suis-je, et se présente. Donc Pierre, c'est à toi.
Qui suis-je ? Je suis Pierre Jakubowicz, j'ai 33 ans et je suis un amoureux de Strasbourg. Et je crois que c'est cet amour de Strasbourg qui a guidé mes choix et mes engagements. C'est une ville que je n'ai jamais voulu quitter, même au gré des opportunités, parce que j'y ai mes racines et mes envies. Je suis conseiller municipal depuis maintenant presque un an, vice-président de l'Office de tourisme de Strasbourg et sa région. J'ai la chance de présider aussi depuis 5 ans une belle association qui s'appelle les Volontaires pour Strasbourg, qui s'est beaucoup mobilisée dans la crise sanitaire, notamment des derniers mois. Et puis pour faire le lien avec le titre de l'émission, tu cherchais un titre. Moi, je pense que le titre de ma vie, ce serait « S'abstenir, c'est subir ». Et j'ai jamais supporté de subir les choses. J'ai toujours voulu en être acteur. Ouais. Et donc, c'est ce qui, je pense que c'est ce qui me définit le mieux. Je suis quelqu'un qui veut agir.
Être dans l'action de 5h du matin jusqu'au lendemain matin.
Oh, des fois, les horaires sont même plus. Je dors peu. Je suis vraiment connu pour dormir peu.
D'accord.
Donc, il m'arrive de dormir 2 à 4 heures par nuit.
Très bien. Je te donnerai un jour peut-être la recette des mini-siestes, des micro-siestes.
On parle beaucoup.
Ouais, qui permet de vraiment faire 3 journées en une. L'idée essentielle de cette émission sera donc de découvrir tes engagements. Tes engagements en tant que politique, en tant que citoyen. Politique. Je crois que en t'écoutant, on va mieux comprendre ce que cela veut dire, l'engagement politique, et la noblesse, surtout la noblesse de cet engagement. Si tu avais un engagement à mettre en avant, un seul engagement parmi tes nombreux engagements, ce serait lequel ?
Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que choisir, c'est renoncer. Mmh. Et je suis pas tellement de nature à renoncer, mais s'il y avait 2 engagements à mettre en avant, il y aurait mon engagement actuel de conseiller municipal, parce que c'est un honneur, pouvoir agir pour sa ville et ses concitoyens vraiment dans leurs préoccupations du quotidien, c'est quelque chose de magnifique et je mesure ma responsabilité. Et un autre engagement que j'ai de longue date, c'est celui pour la mémoire. Ça fait écho à mes racines et valeurs familiales, aux valeurs républicaines aussi. Mmh. Et donc voilà, c'est quelque chose qui, depuis mon enfance et mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, dans mon mandat d'élu, m'a toujours habité.
Ok, merci. Alors, allons-y. Aller voter, c'est votre devoir. Mais qui suis-je pour vous dire cela ? Je suis en fait simplement un citoyen qui a peur un jour de se retrouver dans un État fasciste, une dictature gauchiste. Ce n'est pas moi qui vous le demande, ce sont mes enfants qui n'ont pas connu la guerre et ce sont mes parents qui l'ont connu. Alors vous allez me dire, je m'abstiens parce que aller voter, ok, pourquoi pas, mais pour qui ? Je ne crois plus dans les politiques. Pour qui voter si je pense que ma voix a une certaine valeur ? En qui remettre ma confiance ? Pour répondre à ces questions absolument essentielles, trois arguments seront développés pendant l'émission. D'abord, nous rappellerons aux abstentionnistes quels sont les enjeux énormes. Nous tordrons ensuite le cou au principal argument avancé par les abstentionnistes. Les politiques sont tous des pourris, argument totalement démagogique, totalement faux. Enfin, nous dirons que d'aller voter, c'est aussi et surtout une adhésion à des valeurs magnifiques qui justifient amplement le vote pour des candidats démocrates. Parlons donc d'abord des enjeux du vote et de l'abstention. La guerre a cessé en Europe il y a 70 ans. 70 ans de paix où les enfants peuvent jouer dans l'insouciance de leur innocence. Depuis la guerre, nos politiques ont construit une nouvelle communauté qui nous a permis de vivre dans une croissance unique dans l'histoire de l'humanité. À partir d'une Europe détruite, nous avons su vivre ensemble dans un destin commun qui garantit cette paix si précieuse. Vous avez, les abstentionnistes, certainement oublié que les populations qui ont connu l'effroi ont puisé dans cet effroi une intelligence collective qui a créé la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il est assez évident que cette intelligence s'est perdue avec le temps. Ainsi, aujourd'hui, année après année, le souvenir de la guerre devient lointain, diffus, abstrait. On croit même que cela ne veut plus rien dire du tout. On a du mal à comprendre, à appréhender ce que guerre veut dire. Et ce qui est grave, c'est que cette mémoire diffuse, parcellaire, commence à influencer nos comportements et nos votes. Nous devenons intransigeants, nous ne reconnaissons plus la valeur des choses et le poids des valeurs. Nous ne voulons plus voir l'essentiel. Nous devenons belliqueux et surtout irresponsables et j'irai plus loin, lâches. Nous devenons des enfants gâtés de la paix et nous laissons les extrêmes réapparaître pour refaire l'histoire. Pierre, j'ai entendu la semaine dernière sur un marché une phrase assez saisissante. Il nous faudrait une bonne guerre pour remettre l'église au centre du village. L'histoire étant cyclique, penses-tu qu'un risque de guerre est probable et que l'abstention va nous y mener ?
Je pense qu'on est effectivement frappé d'amnésie. J'entends beaucoup les élus et candidats de l'extrême droite répéter souvent le leitmotiv « essayez-nous ». Et comme beaucoup, malheureusement, j'ai le souvenir qu'on a déjà essayé ces idéologies-là.
Évidemment.
Et qu'on a déjà vu ce que ça a produit en barbarie, en chaos et en perte des valeurs humaines les plus fondamentales. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on soit au bord du précipice et d'une guerre. Mais par contre, les fractures, elles sont de plus en plus profondes. Et il faut revenir à un idéal républicain. Il faut arriver à retransmettre les valeurs essentielles. Mmh. Et c'est sûr que quand on est dans un système politique où de plus en plus, élection après élection, 15% des électeurs décident seuls pour les 85% autres, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Mmh. Et c'est tout le sens de ton émission, mais aussi du combat de beaucoup de personnes, c'est de lutter contre ça et de faire comprendre que si on n'est pas content, la meilleure façon de le faire savoir, c'est de participer,
totalement.
C'est de choisir, c'est de se présenter, c'est de voter, c'est d'influer, de faire entendre sa voix. Mais cette stratégie du pire, elle est à éviter à tout prix.
Mmh, bien sûr. Merci. Notre jugement je vais rebondir sur ce que tu dis. Notre jugement politique est totalement déformé par différents phénomènes, dont l'hypermédiatisation, le temps immédiat qui a remplacé le temps de la réflexion. Les révolutions technologiques ont bouleversé notre identité. Parallèlement, étant nantis, dans un confort pratiquement coupable, pensant que tout nous est dû, que notre omniscience justifie tous nos actes, nous exigeons de plus en plus de droits et refusons presque tous nos devoirs. Notre faute est là, il me semble, ne plus accepter notre devoir et nous oublions donc l'essentiel, c'est la citoyenneté et le vote qui va avec. Nous laissons les extrêmes reprendre la main de l'histoire malgré le fait que nous connaissons l'histoire. Et là, comme tu le disais avant, et la guerre redevient une éventualité, d'après moi, elle redevient une éventualité, évidemment pas une guerre contre l'Allemagne, mais plutôt une guerre civile, une guerre de civilisation. Regardez déjà dans les quartiers ce qu'il se passe. Regardez les violences avec les gilets jaunes, qui sont les premières cohortes d'abstentionnistes totalement démagogiques et irresponsables. Les partis extrémistes nous mèneront, à mon avis, à des conflits violents, peut-être une guerre civile, car c'est leur intérêt, c'est leur fond de commerce. Leur discours de haine induit, impose qu'ils aient des ennemis. Ils ont besoin d'ennemis et ce rapport à l'autre induit des conflits violents. Les démocrates, dont évidemment tu fais partie, Pierre, eux n'ont pas besoin d'ennemis pour inventer, travailler, proposer et être dans l'action. Face à l'adversité, plutôt que d'assumer, de se battre, de réinventer, nous préférons un comportement de nanti, endormi dans notre confort. Je vais peut-être un peu loin, mais j'assume. Nous préférons déserter et s'abstenir. Et face aux menaces qui pointent, aux partis extrémistes de droite, mais aussi de gauche, et à Strasbourg, je pense que nous sommes bien placés pour rajouter de gauche aussi, nous devons agir en démocrate, et notre seule réponse est d'aller voter. Voilà quels sont les enjeux. Garantir la poursuite de notre société humaniste, progressiste, dans un cadre de paix et de fraternité et de croissance. Pierre, tu es engagé actuellement dans une campagne politique essentielle, fondamentale. C'est la campagne régionale pour le Grand Est. Tu as un rôle très très actif actuellement, il me semble. Tu peux en dire quelques mots ?
Oui, alors je ne suis pas candidat, mais j'ai le bonheur et l'honneur d'accompagner dans cette campagne Brigitte Klinkert, avec qui j'ai travaillé et que je connais bien, et dont je partage les engagements et le projet pour notre région.
Très bien. Et à ce titre, ton analyse politique prévoit-elle, parmi les différentes hypothèses, l'arrivée d'un parti extrémiste à la région le 27 juin ?
Je crois que en politique, on a des adversaires, et ça, c'est le jeu. Et puis, il y en a d'autres qui sont davantage des ennemis. Mmh. Le Rassemblement national, par les valeurs qu'il porte, par la désinformation, par la manipulation, par cette stratégie permanente de la fracture, est un ennemi politique.
Totalement.
Et donc, toutes les forces républicaines et démocrates doivent s'unir pour le battre. Avoir dans une région comme la nôtre qui porte les stigmates de l'histoire et les blessures de l'histoire d'une façon encore plus absolue et qui a su être aussi le berceau de la renaissance européenne et de la paix, avoir un parti extrême comme le Rassemblement national à plus de 25%, c'est de toute façon un sujet d'inquiétude et de préoccupation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est combattre d'un côté la désinformation. Et on a vu dans d'autres démocraties à l'international tout le mal que cela pouvait produire. Oui. Mais c'est aussi apporter des réponses concrètes aux inquiétudes légitimes et aux facteurs dont se nourrissent les extrêmes pour prospérer. Et je crois que typiquement dans notre région, il y a eu des erreurs dont se nourrit aujourd'hui le Rassemblement national. Ces erreurs, c'est la perte de proximité, c'est l'éloignement des élus. Mais c'est aussi une volonté d'effacer les identités et les racines historiques des régions.
Avec la création du Grand Est, par exemple.
Avec la création du Grand Est, qui s'est fait... la création du Grand Est en soi, elle s'est faite contre les populations.
Totalement.
Mais ensuite, on a eu une stratégie politique au sein des gouvernants du Grand Est qui a consisté à rajouter encore de l'éloignement et puis à créer ce nom de Grand Est pour supplanter des noms historiques qui parlaient à l'affectif, à l'histoire et au patrimoine des gens. On habite en Lorraine, on habite en Alsace, on habite en Champagne-Ardenne et c'est important. Et on voit aujourd'hui que les extrêmes se nourrissent de ça. Et je pense que le meilleur antidote face aux extrêmes, c'est pas seulement de les dénoncer, c'est d'apporter des réponses républicaines concrètes à ces inquiétudes, remettre de la proximité, agir concrètement dans les plus petits villages, dans les bourgs, dans les milieux urbains, dans les quartiers en difficulté, et c'est respecter, parce que c'est pas un mot péjoratif, respecter les identités, les cultures, le patrimoine, les langues régionales, et c'est ce projet que porte avec détermination Brigitte Klinkert, dont on connaît ici le bilan avec la création de la collectivité européenne d'Alsace avec Frédéric Biry, dont on connaît l'engagement aussi pour les cultures et langues régionales, pour le transfrontalier et pour l'Europe. Moi, je veux dire une dernière chose, le Rassemblement national, tout son projet tourne le dos, tourne le dos non seulement à l'histoire, mais aussi au quotidien et au futur de notre région.
Bien sûr.
On est le cœur de l'Europe. L'Europe, c'est notre passé, c'est une mémoire. Mais l'Europe, c'est des emplois, c'est des opportunités, c'est de la recherche, c'est des études, c'est une coopération sanitaire. On a vu au moment de la crise sanitaire, quand les frontières se sont fermées, à quel point ça a créé du désarroi dans des familles.
Bien sûr.
Pour des emplois. Et aujourd'hui, n'oublions pas que le projet du Rassemblement national, c'est la fermeture permanente des frontières, c'est la sortie de l'Europe. Donc il ne faut pas avoir la mémoire courte et il faut se dire qu'on peut avoir des inquiétudes légitimes, mais qu'il y a des réponses républicaines pour y répondre et qu'on n'est pas obligé d'essayer des apprentis sorciers qui ne veulent que le mal de nos territoires.
Tout à fait. Merci, merci beaucoup Pierre. Nous allons faire une petite pause musicale. Avant de poursuivre avec une musique extraordinaire, une musique d'amour. Je ne passerai que des musiques d'amour dans mes émissions, positive, légère, entraînante, c'est pas toujours le cas quand on parle d'amour, sur une orchestration absolument merveilleuse. Véronique Sanson avec Vianney, chanson sur ma drôle de vie. Si vous avez envie de danser pendant l'émission, dansez.
C'est quand même vous qui commenciez, Véronique.
Si je vous
permets.
Non.
Ça va être dur de dire tu, franchement.
Non, 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 non.
Mais dans la chanson, je vous tutoie, donc c'est vrai que je vais m'y faire.
Très bien.
Tu l'as dit. Il y a quand même les deux rimes en hête, on les attend.
Oui. Bon, je vais commencer.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai les idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie.
Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours.
Et si je te pose des questions,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je te réponds,
qu'est-ce que tu diras?
Si on parle d'amour,
qu'est-ce que tu diras?
Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi.
On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie.
Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours.
Si je te pose des questions,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je te réponds,
qu'est-ce que tu diras?
Si on parle d'amour,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. Même si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi.
Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
Merci Lucas à la régie pour ce morceau absolument super. Tordons maintenant le coup au premier argument avancé par les abstentionnistes. Les politiques sont tous des pourris. Cette rengaine est d'une démagogie totale. C'est un discours d'extrême droite et maintenant d'extrême gauche qui veulent faire exploser le système. Jeter le discrédit sur les politiques est le programme même des extrêmes. Les politiques sont dans l'immense majorité des gens sincères, passionnés par la chose publique. Il est détestable de les condamner tous. Ils travaillent d'arrache-pied, ils sont très mal payés. La société France, la société Strasbourg, dans laquelle vous vivez, ce sont elles et eux qui l'ont façonnée. Soyons justes avec eux. Évidemment, ils pourraient probablement faire mieux. Mais balayons d'abord devant notre porte avant de les critiquer. Et puis attention, attention à ne pas jeter le bain avec l'eau du bain. Le risque est immense, d'une gravité immense. Les démagos d'extrême gauche et d'extrême droite, ce sont eux les pourris. S'ils arrivent au pouvoir, ce sont eux qui vont se servir et corrompre le système. Disons que notre société, construite en 70 ans, permet à tout un chacun de bénéficier aujourd'hui de 1000 choses. De la sécurité sociale, de la santé, des routes, des écoles, des universités, de la sécurité. Tous ces acquis extraordinaires, ce sont les politiques démocrates qui l'ont construite jour après jour. Comment peut-on l'oublier? Comment peut-on dire que ce sont tous des incompétents, alors que tous les jours nous profitons de leur travail? C'est cela la vérité. Arrêtons de pleurnicher, prenons un peu de hauteur, regardons notre réalité. Et si vous n'êtes pas content, mais alors engagez-vous, devenez vous-même un politique et prenez vos responsabilités. Pierre, peut-on parler un peu de tes engagements qui sont quand même assez, assez nombreux ?
Avec plaisir.
Tu es par exemple... élu municipal, conseiller municipal à Strasbourg. Tu as écrit combien de fois à Madame la maire ? Alors ici, je vais l'appeler Jeanne, d'accord ? J'ai dit Madame la maire, je m'étais promis de ne pas le dire, je l'ai dit, je m'en veux déjà. Donc je vais l'appeler Jeanne, hein, c'est mon choix. En une année de mandat, combien de fois tu t'es adressé à elle ?
Alors, j'ai fait les comptes avant de venir.
Ouais.
Donc, en 11 mois de mandat,
ouais.
Je lui ai écrit 81 courriers.
80 courriers, d'accord.
81 courriers avec environ 30% de réponses.
OK.
Et un délai moyen pour ces 30% de réponses de 2 à 3 mois d'attente.
OK.
Donc, voilà l'état de nos relations épistolaires.
D'accord. Et beaucoup d'interpellations, évidemment, pendant le conseil municipal, ça j'imagine.
Alors les conseils municipaux, c'est notre temps fort
oui.
démocratique. Mmh. On a eu 10 conseils municipaux depuis le début du mandat. Normalement, j'aurais dû vous dire qu'on en avait eu 12,
oui.
mais elle en a supprimé 2 pour ne pas donner trop d'écho à son opposition. Et donc en 10 conseils municipaux, j'ai porté 12 interpellations, une motion... 3 résolutions et 4 questions d'actualité.
D'accord.
Donc 22 initiatives en 10 conseils, parfois seules et parfois en lien avec certains D'accord. de mes collègues
Toutes
conseillers.
Toutes ces initiatives, tous ces courriers font suite à de multiples rencontres, j'imagine. Tu es quelqu'un de... Tu te définis comme un homme politique de terrain ? Est-ce que c'est un terme qu'on pourrait t'appliquer ?
Ah oui, moi c'est vraiment ce qui me plaît. D'ailleurs, ça a été un peu la souffrance depuis le début du mandat liée à la situation sanitaire. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est aller sur place, rencontrer les gens, regarder concrètement quels sont leurs problèmes et nourrir l'ensemble de mes prises de position, de ce que j'ai vu par mes yeux, ce que j'ai entendu, et puis essayer d'y apporter des réponses. Il y a ce qu'on voit, par exemple, dans la presse ou au conseil municipal, mais une grosse partie du boulot, elle se fait en coulisses, parce que il y a chaque mois des dizaines d'habitants qui m'écrivent pour des problèmes vraiment liés à leur rue, à leur quartier ou à une situation. Et puis on fait tout ce qu'on peut pour essayer de les aider et d'y apporter la réponse la plus rapide possible.
Alors, cet engagement politique représente combien d'heures de travail pour être très concret ? On demande toujours à un salarié combien d'heures il travaille par semaine, etc. C'est quoi, c'est
Quand on aime, on compte pas.
D'accord.
C'est voilà, j'ai une vie professionnelle et c'est quasiment tout mon temps libre en dehors.
D'accord.
Donc c'est mes soirées, c'est mes week-ends et.
Et quelle est la rémunération que tu perçois en tant qu'élu?
Alors c'est pas une rémunération, c'est une indemnité.
D'accord.
Le terme est.
Oui,
est important.
Et précis, oui.
Et donc c'est très exactement 428,17 €.
1400.
Non, 428.
428.
17 centimes.
Il n'y a pas d'erreur.
Il n'y a pas d'erreur.
D'accord. Ok. Ça doit faire, je pense, un petit peu réfléchir ceux qui disent que les politiques sont sur la coule douce, ne font pas leur travail et ne sont pas engagés sur la réalité des problématiques.
C'est certainement pas un engagement qu'on mène pour s'enrichir.
Mmh.
Et je veux avoir une pensée aussi. Moi, je suis élu d'une grande ville, mmh. l'une des 10 plus grandes villes.
Oui.
De France,
oui.
Mais je veux penser aussi à des dizaines de milliers de conseillers municipaux dans
exact.
Des petites villes, des villages et autres, mais qui sont bénévoles et qui des fois ont encore moins que ça et qui sont aussi sur le pont matin, midi et soir. Donc voilà, quand tu disais tous les élus ne sont pas des pourris, bah effectivement, la majorité, mmh. l'immense majorité d'élus,
ouais.
c'est des femmes et des hommes qui donnent du temps, qui laissent parfois leur santé parce qu'ils y croient.
Totalement, et qui prennent des responsabilités aussi, des risques même vraiment très très importants, des risques même pénaux, il faut pas l'oublier. Penses-tu, au fond de toi-même, après une année de mandat, penses-tu parfois que les Français sont ingrats avec les élus, qu'ils ne se rendent pas compte en fait de la réalité de cet engagement?
Je pense qu'il y a aujourd'hui une fracture et une défiance.
Mmh.
On le voit. Et les torts sont certainement partagés du côté des élus et de la classe politique, que ce soit en termes d'attitude ou en termes de communication. Bah, tout le monde n'est pas toujours exemplaire. Et on préfère toujours parler des trains en retard que des trains mmh. qui arrivent à l'heure. Et puis, de l'autre côté, il y a du côté, je pense, des citoyens aussi, une sorte d'éloignement des valeurs de l'engagement. Et il faut arriver à les promouvoir. Après, pour moi, en répondant à cette question, il y a une forme de paradoxe. Parce qu'à la fois, je ne suis pas en rupture avec le terrain, au contraire. Et donc, mmh. je vois bien cette défiance.
Oui.
Et en même temps, moi, dans l'exercice de mon mandat, je ne la ressens absolument pas.
Oui.
Parce que je suis sur le terrain, les gens voient que je bosse, les gens voient que quand je promets de faire quelque chose, je le fais et qu'il y a des résultats. Et je traite avec mes collègues et nos équipes ben, souvent des problèmes même de personnes qui n'ont pas voté pour nous et qui le disent mmh. et qui sont d'autres opinions et qui me remercient de l'action que je peux avoir. Donc je pense que vraiment... apporter des solutions concrètes, montrer qu'on est pragmatique,
mmh.
Qu'on n'est pas idéologue en toute chose,
surtout pas.
C'est la meilleure façon de recréer ce lien de confiance.
Alors, mon interprétation aussi sur ce lien rompu hein, entre les élus et les citoyens, c'est pour moi les médias. Les médias, le traitement médiatique qui est fait des élus, qui est aujourd'hui, à mon avis, absolument pas à la hauteur des enjeux et qui déforme en fait totalement la réalité. Pour des différentes raisons, je pense que ce sera probablement un jour le sujet d'une émission. Troisième et dernière partie, pour essayer peut-être de convaincre des abstentionnistes d'aller voter, parlons peut-être de la chose la plus importante, parlons des valeurs. Vous savez, ces mots qui définissent notre société, notre pacte républicain, ces mots qui ne veulent aujourd'hui plus rien dire à force d'être si évidents. Quelles sont nos valeurs ? Liberté, égalité, fraternité, humanisme, solidarité, droits de l'homme, égalité entre les femmes et les hommes, respect des minorités, tradition judéo-chrétienne, lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, tradition rhénane, éducation, adhésion non équivoque au capitalisme, à l'Europe, respect de la planète. Vous ne croyez pas que tous ces mots-là justifient d'aller voter pour un parti démocrate ? Dans l'acte de voter, il y a l'expression de l'adhésion à ces valeurs. Les programmes politiques viennent, à mon sens, un petit peu après. Voter pour les socialistes, le Modem, Agir, les Républicains est peut-être secondaire. Ils se retrouvent tous sur des valeurs communes. Ils méritent tous votre vote. Je vous l'assure, il faut aller voter pour un de ces candidats démocrates car ce sont tous des défenseurs acharnés de ce socle commun. Je n'ai pas cité dans ma liste des partis, les communistes, les écologistes, France Insoumise et le Front National. Je ne les ai pas cités car ce sont les principaux ennemis de ces valeurs ou au moins d'une ou plusieurs de ces valeurs. Et quand on parle de valeurs, il n'y a pas de négociation possible. Je peux les prendre les uns après les autres et vous démontrer qu'ils veulent attaquer notre maison commune. Nous parlons de valeurs alors. Prenons un exemple, allons-y. Parlons de Jeanne et de son équipe municipale. Depuis les épisodes de la subvention de 2,5 millions d'euros à la mosquée, intégriste, il ne faut pas oublier ce mot-là, de ne pas voter la résolution contre l'antisémitisme, du dépôt de la gerbe en solitaire, du soutien au Hamas apporté par des élus écolos, du discours antisémite de l'adjoint Obsès en plein conseil municipal, de l'absence coupable à l'hommage de Sarah Halimi, je considère qu'ils ne font plus partie de ce pacte républicain, qu'ils en sont les ennemis clairement affichés. Je ne les ai pas mentionnés dans les partis démocrates aussi car ils passent leur journée à dégommer la classe politique, à faire de la démagogie de caniveau. Ils dénigrent le système qu'ils veulent gouverner. Ils sont ainsi malhonnêtes, manipulateurs et avancent masqués. Ils manipulent les électeurs en les poussant à s'abstenir. Pierre, nous parlons là de valeurs et de Strasbourg et de Jeanne et de son équipe. Penses-tu que les valeurs strasbourgeoises sont mis en danger par l'extrême gauche?
Je pense que nous vivons avec le mandat actuel une rupture. Depuis l'après-guerre, Strasbourg a toujours eu des maires et des municipalités humanistes et centristes, centristes de gauche, centristes de droite. C'est un secret pour personne. Je me suis engagé aux côtés de Fabienne Keller. Mmh. J'ai aujourd'hui souvent la chance d'échanger avec Catherine Trottmann. Oui. J'ai été un opposant à Roland Ries, mais il a toujours su placer la République au-dessus des considérations partisanes quand il le fallait. Et aujourd'hui, effectivement, je n'aurais jamais cru qu'on puisse faire tant de mal à notre ville, à son image et à son vivre ensemble en si peu de temps. Nous n'avons pas face à nous des élus qui placent toujours la République au-dessus de tout. Nous avons souvent l'impression d'avoir face à nous des militants et d'être dans des assemblées militantes. Je pense qu'aujourd'hui, la maire et son équipe n'ont pas su se dépasser pour rentrer dans leurs habits et dans leurs fonctions. Je respecte pleinement leur légitimité puisqu'elle est issue du suffrage universel. Mais les conditions de leur élection devraient les amener à davantage d'humilité et à considérer, comme tu le disais, qu'en démocratie, quand on est élu, on a des droits et des pouvoirs, mais aussi des devoirs. Et ces devoirs, c'est d'être à la hauteur du temps, à la hauteur des enjeux. Et sur le dossier de la mosquée, dans le refus du label de capitale de la démocratie européenne,
que j'avais oublié,
dans le refus de la motion de l'IHRA sur la définition de l'antisémitisme, dans l'attitude sur la mosquée, le fait d'écrire une lettre au président de la République dans laquelle on ment, le fait d'accuser la représentante de l'État, la préfète, de mensonge publiquement, il y a une forme d'irresponsabilité qui fait mal à notre ville. Et j'espère que cette liste déjà douloureuse ne s'allongera pas. Mmh. Et c'est notre rôle à nous aussi, élus de l'opposition. C'est pas simple, hein. On est une dizaine face à 50.
Ouais, ouais.
Donc le rapport de force est déséquilibré. Mais c'est notre rôle à nous d'être des vigies démocratiques, être des lanceurs d'alerte, comme on dit aujourd'hui, pour éviter à chaque fois que nous le devons, que le pire ne se produise.
D'accord. Merci. Pourquoi pour conclure cette émission, on dépasse un peu le temps, je m'en excuse. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les candidats, je me permets de vous dire, allez quand même voter pour la République à travers les partis démocrates. Sinon, votre abstention veut dire quoi? Vous voulez changer notre pacte républicain? Vous voulez remplacer les droits de l'homme, les mots liberté, égalité, fraternité par quoi? Par ordre? Préférence nationale, dictature du prolétariat, islamo-gauchisme. Vous voulez remplacer le capitalisme par le communisme. Rappelons que 33% des électeurs sont allés voter au municipal à Strasbourg l'année dernière. 21 000 voix ont envoyé Jeanne à la mairie pour 6 ans. Des dizaines de milliers d'électeurs ne sont pas allés voter et ont permis à Jeanne de détricoter patiemment notre pacte commun. S'abstenir revient à donner une voix aux extrémistes. La phrase la plus importante, il me semble, de l'émission est la suivante. Quelle ironie ! S'abstenir, en fait, revient à voter pour le diable. Le 20 et 27 juin, le matin, j'ai une suggestion à vous faire. Allez vous promener au bord du Rhin. Regardez le fleuve dans sa magnificence, dans sa puissance. L'Alsace a toujours puisé dans le Rhin son identité, sa force, depuis des milliers d'années. Posez-vous, regardez-le dans les yeux, écoutez-le, sa beauté, sa puissance vous ramèneront à l'essentiel. Puis, allez voter pour la démocratie. Toutes deux petites questions pour terminer. En Belgique, le vote est obligatoire. Pierre, penses-tu que la Belgique est moins démocratique que la France ?
Alors, je ne pense pas que la Belgique soit moins démocratique que la France. Chacun a son système politique. Je pense qu'en effet, il faut se saisir de la question de l'équilibre entre les droits et les devoirs. Mmh. On ne peut pas se satisfaire, comme tu le disais, que 15% d'une société décide pour les autres. Donc, je pense qu'il faut réfléchir. Il ne faut rien exclure a priori. La piste du vote obligatoire en est une, à condition de reconnaître le vote blanc.
Bien sûr.
En contrepartie. En tout cas, je pense qu'une chose est sûre, c'est que le statu quo n'est pas acceptable et qu'il va falloir qu'on pense à l'évolution, à la refondation de notre démocratie pour qu'elle implique à nouveau le plus grand nombre possible.
Merci beaucoup. Une toute petite dernière question. Le rituel de l'émission démarre avec la question « Qui suis-je ?» et l'émission se termine par un autre rituel. En sortant de ce studio, si tu avais un doigt d'honneur à faire, ce serait à qui ou à quoi ?
J'ai des engagements, j'ai mes révoltes, mais j'ai toujours choisi de me battre autrement qu'en faisant des doigts d'honneur. Et je me dis d'ailleurs que si je répondais à mes révoltes par des doigts d'honneur, tu ne m'aurais peut-être pas invité.
Je crois pas ça. Je crois pas ça. Au contraire, je t'aurais déjà invité. Non, mais je pense que c'est absolument tout à ton honneur, évidemment. Voilà. Merci beaucoup. L'émission se termine. Les deux prochaines semaines, je parlerai de ma voisine, de ma chère voisine, qui déteste Israël et qui est antisémite, communiste et pour rajouter au portrait, elle est fonctionnaire européen. Et donc, je lui consacrerai, quel honneur, deux émissions, car elle est très jolie. Non, c'est pas vrai du tout, en fait. Enfin, peut-être, ça n'a rien à voir. Je lui consacrerai deux émissions pour démonter son idéologie. Une première émission sur le communisme, avec un invité qui s'appelle Youssef, qui est tchèque et qui a connu la vie à Prague avant la chute du mur de Berlin et qui sait ce que c'est qu'un système socialiste, communiste, avec toutes les privations qui vont avec. C'est un gars absolument croustillant, on va bien s'amuser. Et il y aura du whisky cette fois-ci, ce sera une obligation. Et la deuxième émission portera sur sa détestation d'Israël et son antisémitisme. Merci beaucoup, à mercredi prochain.
Merci beaucoup.
Merci Pierre, merci beaucoup.